Et rebonjour à tous et à toutes.
On va approfondir plus tes pratiques chamaniques.
Oui.
Et d'abord, on va parler du yoga.
D'abord, on va parler du yoga. C'est une discipline indienne, comme tout le monde le sait, qui date de milliers d'années. Il y a différentes formes de yoga. Moi, je vais plutôt enseigner des formes très dynamiques, qui peuvent même sembler très sportives et surtout qui vont aller chercher loin dans le corps. On va aller chercher déjà ses propres limites. Et puis, on va aller vraiment refaire circuler l'énergie et ouvrir des zones dont on va se rendre compte très rapidement, comme les chevilles, le bassin et la colonne, qui sont souvent très rigides et bloquées. Parce que bon, ben voilà, on est souvent assis sur des chaises ou dans des voitures toute la journée, ce qui n'est pas naturel pour le corps. Et on va venir délier ça et vraiment retrouver une ouverture, une souplesse qui est normalement plus naturelle et surtout de la force. Dans ces yogas-là, on va venir trouver de la force. Et quand on est fort dans son corps, dans son énergie, on est fort dans sa tête et on n'appréhende plus la vie de la même manière.
Pas mal.
Pas mal.
Et oui, en plus, on a souvent mal au dos. Le mal du siècle.
Le mal du siècle. Ben, parce qu'on est assis sur des bassins qui sont complètement rigides, en fait. Et quand la base n'a pas de souplesse, ben après, les vertèbres, elles se bloquent les unes derrière les autres pour essayer de compenser. Plus tout ce qu'on se porte dans la journée, en fait, quoi. Symboliquement et en réel, quoi.
Et le yoga donc aide à se libérer et à redonner une harmonie
complètement
sorte, spirituelle et,
ça va,
et physique.
Ça va agir sur différents aspects. Le yoga déjà, de prime abord, quand on y rentre comme ça, on va venir un peu délier et débloquer le physique. J'ai des gens qui arrivent avec des hernies assez grosses quand même et inflammatoires. Et en y allant tranquille, au bout de 2 ou 3 mois, ils n'ont plus du tout mal. Et c'est quelque chose qui s'entretient. C'est vraiment, c'est une vraie solution à pas mal de maux. Et après, très vite, on va se rendre compte que la façon d'appréhender la vie, la façon d'appréhender le stress, et plein de choses. J'ai des gens qui changent naturellement leur alimentation, qui sentent qu'il y a plein de choses qui sont quand même impactantes. Et naturellement, ils vont commencer à modifier leur alimentation vers des choses qui vont être mieux pour eux, qui vont être plus digestes, qui vont vraiment soutenir l'énergétique, l'émotionnel même. Et il y a des gens qui voient leur vie comme ça, tout autour d'eux, changer, parce qu'ils sont en train de changer de l'intérieur, en fait. Tout simplement, leur rapport au corps, leur rapport à la vie est complètement en train de changer. Et du coup, quand on change à l'intérieur, bah, y a tout l'extérieur qui commence à se mettre en branle et à changer autour, en fait.
Waouh! Pas mal.
Ouais, ça a l'air de rien hein, comme ça, mais.
Tu as suivi un long parcours avant de devenir praticienne en yoga et.
Oui, j'ai déjà tout un parcours de thérapeute par le massage. Ça a été les premières choses que j'ai faites. Et je suis praticienne en médecine ayurvédique, donc j'ai déjà fait 4 ans pour apprendre à. J'essaie de trouver les bons termes, parce qu'en France, il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser. Mais voilà, appréhender le corps par toutes ces médecines douces. Et c'est ça qui m'a fait venir au yoga. Et puis comme je vais régulièrement en Inde, je me suis formée et en France et en Inde. J'ai plusieurs professorats de yoga, et plus une pratique personnelle. Donc je suis formée dans des yogas doux, dans des yogas dynamiques. Un petit peu en France, mais principalement en Inde, et avec des professeurs internationaux. J'aime le côté aussi créatif que beaucoup de professeurs américains et allemands que j'ai en tout cas m'ont amené et je fais un mix de tout ça.
Et tu organises en plus plusieurs ateliers sur Briançon.
Alors j'organise tous les mois des ateliers d'approfondissement qui vont mêler yoga, ayurveda et pratique chamanique. Donc les gens peuvent y venir quand ils veulent.
Il y en a
C'est autant débutant que confirmé, je m'adapte à tout le monde dans la salle et au contraire, plus il y a différents niveaux, plus c'est porteur. Parce qu'en fait, il y a un effet de groupe qui fait que ça va être aidant pour tout le monde. Et je suis assez nomade, donc je bouge beaucoup, donc je n'ai pas des cours réguliers, ce que je faisais avant. Et je fais des ateliers thématiques où on va vraiment approfondir et aller un peu plus loin dans les enseignements aussi. Et puis derrière, j'ai aussi des stages qui sont en train d'arriver, où je mêle du yoga et les pratiques chamaniques. Et cette année, le premier gros truc à cet automne, c'est que j'ai une formation de professeur de yoga, qui est accessible aux gens qui veulent devenir professeurs de yoga, comme aux gens qui veulent vraiment approfondir leur pratique, se connaître, et faire tout un mois vraiment de développement personnel et de travail sur eux. Donc c'est vraiment ouvert à différents types de publics.
Ah oui, ouais. C'est pas mal, hein.
Les formations de yoga sont vraiment très transformatrices, et moi je l'ai construite celle-là pour qu'elle soit mi-yoga, mi-chamanisme, pour vraiment qu'il y ait vraiment un gros vecteur de transformation, en fait.
Est-ce que tu t'appuies sur des supports, colliers, bougies, je sais pas, lors de tes séances de yoga ou de pratiques chamaniques?
Oui et non, ça peut arriver de m'appuyer sur des supports pour aider. Si je travaille sur le feu, enfin avec l'élément feu, je vais proposer une bougie devant chaque tapis. Après là, ce sera plus en chamanisme qu'on va travailler avec des supports, puisqu'on a des cérémonies. Je fais des cérémonies à l'extérieur dans les montagnes avec du feu. Mais principalement, moi, ma spécialité, c'est de travailler avec les esprits des montagnes, avec l'eau. Donc on va se rapprocher des éléments pour communiquer avec. Donc il y a des gens qui arrivent à commencer à sentir ce qui se passe, et puis ben, je suis là pour traduire, en fait, tout simplement. Là, un praticien chamanique qui fait le traducteur entre ce que disent les esprits, et puis pour guider les gens à travers tout un processus énergétique, en fait. Mais je vais avoir souvent plutôt tambour, hochet, et le reste, moins j'ai de support et plus je suis libre de faire une cérémonie comme ça d'un coup parce qu'on me la demande, mieux c'est. J'aime bien être peu chargée et que ce soit simple.
Ne pas prévoir.
Bah, c'est ça, en fait. Si c'est le mental qui prévoit, souvent, ça se fait bien, mais souvent, c'est de pouvoir faire à brûle pour point, comme ça, il y a quelque chose qui se présente, une énergie qu'on mène. Et puis, voilà, tout est possible, en fait. Tout est possible.
Et le yoga, donc, apporte un mieux vivre, un mieux... Voilà, ça...
Ça apporte un mieux vivre.
C'est un sport ou pas?
Ça peut. En fait, je me suis rendu compte, je viens des métiers de la montagne, j'ai préparé l'accompagnateur en montagne et le pisteur secouriste pendant des années. Et j'ai été pompier dans les mêmes laps de temps, donc c'était quand même des choses qui étaient très, sportivement parlant, qui demandaient. J'étais très musclée, mais principalement musclée des jambes aussi, parce que j'étais surtout dans la marche. Et quand je me suis mise au yoga dynamique, je me suis rendu compte que j'étais pas aussi musclée que ce que je pensais, et que je me suis, tous ceux qui le pratiquent se musclent uniformément et avec beaucoup 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 de force. Ma capacité de faire de la montagne a été exponentielle, quoi. Donc ça peut être un vrai sport et on transpire vraiment. Ça, c'est clair, et on a des vraies courbatures dans des zones qu'on pensait pas qu'existaient.
Ah ouais.
ouais. Ça travaille des muscles qui vont être différents que la marche, que l'escalade, que le ski. Donc ça va travailler tous ces gros groupes de muscles, mais ça va aussi travailler l'ouverture de certaines zones osseuses, ça va travailler plein de tendons, plein de petits muscles qui sont à l'intérieur. Et là, on sent des endroits commencer à tirailler en disant « dis non, je savais pas qu'il y avait un truc là ». C'est ça, c'est ça. Donc ça peut clairement être considéré comme un sport, et moi, étant sportive, je le considère comme ça, en fait. Mais en même temps, ça va plus me canaliser qu'un sport, m'ancrer et avoir un effet énergétique différent derrière.
Oui, on ne reste pas assis sur un tapis en tailleur.
Certainement pas.
Comme on en a l'idée,
en lotus. C'est possible pour une technique respiratoire 5 minutes, mais ça va être plutôt essayer de respirer et de suivre ce qui se passe, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant, quoi.
Et à tout âge, on peut faire du yoga?
Complètement. On peut démarrer vraiment très très jeune. Il y a des professeurs, même à Briançon,
qui sont les plus souples.
Ils sont les plus souples.
Petits,
on est souples. C'est ça. Et il y a des professeurs qui sont adaptés aux petits, parce qu'il y a aussi une façon de communiquer avec eux. Et en cours, j'ai eu des gens jusqu'à 70-80 ans qui suivaient en yoga dynamique.
Wow.
Et voilà, le principe, c'est quand il y a un truc qu'on sent qu'on ne peut pas faire, je donne plein d'adaptations. Je regarde, je scanne la salle, je donne des adaptations pour tout le monde, pour les débutants, pour les gens plus âgés,
il y a des gens qui continuent.
Bah ouais, faut que tu viennes. Il y a des gens qui viennent de se blesser et qui viennent pour quand même pratiquer, mais on va faire attention à pas solliciter la zone qui est blessée, mais plutôt à consolider tout ce qui est autour pour vraiment soutenir la guérison, en fait.
Ah oui.
Tout est possible. Everything is possible.
Voilà.
C'est ça. Mais le yoga, c'est vraiment une merveille, quoi. C'est un outil qui s'adapte à tout le monde. Les gens qui sont un peu speed de nature, qui ont du mal à se poser dans des yogas doux. J'ai des gens qui venaient en yoga dynamique qui ont été très surpris, en fait. J'aime bien démystifier ce côté yoga où on chante des om sur un tapis, voilà, et on boit du yogi tea en brûlant de l'encens. Alors c'est possible, hein. Mais c'est vraiment intéressant, surtout pour... Chez nous, on est quand même des sportifs. Enfin, ici, à la montagne, on est sportifs. Il y a beaucoup de gens qui sont très actifs et qui ont besoin de continuer une activité comme ça, tout en cherchant peut-être aussi quelque chose de spirituel derrière ou pas. C'est-à-dire que ça s'adapte à tout le monde. Et là, avec ces yogas-là,
on peut le faire partout, en plus.
Complètement.
En pleine montagne, en pleine nature, en salle.
Oui, c'est ça. J'emmène les gens en montagne.
Au Festival des Plantes, ils le font le matin.
C'est ça, ça s'adapte à tout. Avec ou sans tapis, c'est possible de faire du yoga, ne serait-ce que des salutations au soleil, de juste réveiller son corps, même avant de grimper. C'est hyper complémentaire à tous les sports que l'on pratique ici, en fait.
Ça peut faire un échauffement.
Ça peut faire un échauffement, ça peut réétirer derrière un sport comme l'escalade, par exemple, qui est assez demandant. Voilà, récupération. La plupart des sportifs de haut niveau, maintenant, dans tous les sports, se mettent au yoga dynamique pour prolonger leur carrière, pour récupérer de blessures et en récupération sportive tout court. Donc c'est vraiment reconnu, même scientifiquement et médicalement parlant.
Waouh. Et ton prochain atelier, il est quand ?
Mon prochain atelier, alors, j'ai un atelier ce soir. Bon, là, on est lundi, donc c'est peut-être un peu short. J'ai un atelier dimanche, qui est un atelier chamanique de voyage au tambour. Sinon, après, des semaines prochaines, j'ai des ateliers de yoga dynamique. Et j'en ai tous les mois, et je les fais passer et circuler sur Facebook, sur mon site internet et en newsletter. Donc, mon site internet, c'est karinelemaître.com, Karine avec un C, et Karine Lemaître sur Facebook.
Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause musicale ?
Ben, volontiers.
Avec donc Xavier Rude, Spirit Bird.
Culture fades with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, slowly it fades, and slowly we fade. And slowly you fade. Slowly you fade. Sub
C'était Spirit Beer de Xavier Rude. On est toujours avec Karine.
Oui.
Cette fois-ci, pour continuer de parler de tes pratiques chamaniques.
La partie chamanique, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est alors, vaste, c'est hyper vaste.
Un rappel sur ton parcours, quand même, parce qu'il est énorme.
Ouais. Un rappel sur mon parcours. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai été formée dans énormément de choses. J'avais pas forcément accès ni connaissance du chamanisme au départ. J'étais un petit peu sur autre chose. Et il y a quelques années, j'ai eu un grave accident. Et peu de temps après cet accident, j'ai toutes mes perceptions qui se sont ouvertes. On dit comme ça, c'est-à-dire que j'entendais, je voyais, je sentais des choses que je ne voyais, je ne sentais pas et j'entendais pas avant. Donc ça fait, même si je savais ce qui se passait, ça fait quand même bizarre. Et j'ai eu la chance de pouvoir me tourner vers une chamane qui habite en France, fort heureusement pour moi, pour m'aider et trouver des réponses et des solutions à ce qui était en train de se passer et apprendre à le gérer. Et en fait, il s'est passé qu'on m'a fait comprendre que j'avais la capacité de... Enfin, c'est toujours qu'une capacité de devenir chamane, déjà praticienne chamanique, parce que on l'a ou on l'a pas, c'est apparemment des capacités qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais ça met très longtemps, en fait, à devenir chamane. On ne vient pas comme ça, mais on... Voilà, si, moi, j'étais OK à choisir cette voie-là, tout simplement, et elle m'enseigne. Je suis chapeautée, enseignée par deux chamanes. J'ai une grande, grande chance d'avoir des chamanes reconnus internationalement qui m'ont pris sous leur aile et qui m'enseignent à gérer ces perceptions et qui m'enseignent à accompagner les gens, à faire des pratiques, à faire des cérémonies et à trouver ma propre voie, mon propre chamanisme, en fait, qui est le chamanisme des montagnes.
Donc, ton but et d'aller dans la montagne. Tu as un élément, non? La terre?
Alors, c'est la terre et les montagnes. C'est-à-dire qu'il y a des praticiens chamaniques ou des chamanes qui ont un élément qui est plus présent pour eux. Je travaille avec une chamane, notamment, qui est la chamane de l'eau. Beaucoup de chamanes travaillent avec le feu. Et moi, ce sont les esprits de la montagne, en fait, qui m'ont appelé. C'est les esprits qui nous choisissent, hein, c'est pas le contraire. Et en fait, donc la montagne, c'est une extension de la terre, en fait. Donc je travaille vraiment avec cet élément d'ancrage, d'être vraiment profondément ici. Et il y a quand même une énergie différente dans les montagnes. Déjà, je suis une montagnarde de base et je le sens. Et en fait, je vais travailler avec les esprits des montagnes. Je vais faire des cérémonies dans les montagnes où c'est elles qui vont me guider. Par exemple, vers des avalanches aussi. Je fais des cérémonies sur les avalanches quand il y a eu des gros trucs, pour soulager l'énergie, pour aider les gens à travailler en choc post-traumatique ou à faire des deuils. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a tout simplement le travail en cabinet qui va être d'accompagner des gens comme en coaching, en psychochamanisme, à faire des soins chamaniques, des soins énergétiques, voir ce qui est bloqué et accompagner des esprits. Je vais accompagner les gens, on va discuter ou je vais faire des soins chamaniques, mais toujours avec les gens, en fait. Le principe, c'est d'aider les gens à comprendre ce qui est en train de se passer et qu'eux-mêmes, ils peuvent agir avec moi en train de les aider. Et on va... C'est des soins énergétiques, on va dire ça comme ça. Et je vais accompagner, aider les gens sur leur processus de guérison ou sur leur chemin, leur cheminement spirituel.
Et comment se déroule une séance?
Ouh, il n'y a pas de séance type. Disons que je vais accueillir les gens en voyant pourquoi ils sont là. Et... soit on va parler pendant une heure et demie de ce qui se passe, de ce que je peux voir et de ce que je peux percevoir d'eux parce qu'ils ont besoin de plus d'explications rationnelles et mentales. Ou je vais les faire s'allonger sur la table et commencer à mettre les mains dessus, leur expliquer ce que je sens, voir si ça fait sens avec eux et commencer à faire tout un travail énergétique. Je travaille par le biais de massage aussi, où je vois avec le corps où il en est, ce dont il a besoin. Et je fais tout un travail énergétique. S'il a besoin d'être ramené à la terre, s'il a besoin d'une énergie qui est libérée. Voilà, là, c'est des exemples comme ça, mais ça peut...
Et quand tu prends, entre guillemets, ouais, cette mauvaise énergie, pour toi, c'est pas trop fatigant, trop...
Non, parce que j'ai une façon de transmuter qui est que je rote. Ah. C'est pas classe, hein, mais toute énergie qui passe à travers moi, qui est pas censée rester... Je la rote, Le fait que je sois très ancrée me protège. Et en fait, c'est pas que de la mauvaise énergie, c'est juste de l'énergie qui est ou bloquée ou quoi. Et la personne peut... Des fois, il y a des gens qui rotent sur table en même temps que moi. Et ça s'apprend à transmuter ces énergies-là. Ça s'apprend clairement, il faut faire gaffe, mais je suis enseignée pour ça aussi.
Donc, pas mal.
Ancrage, protection, je nettoie la pièce, je nettoie tout. Puis il n'y a pas que de la mauvaise énergie, c'est juste des fois des choses à comprendre ou des énergies à relancer. Voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a juste quelque chose à ouvrir, une compréhension à ouvrir aussi, à comprendre ce qui nous a atteint et à le transformer.
Et quand tu fais des cérémonies, donc ça vient comme ça?
Non, ça dépend. Il y a des cérémonies qui suivent un schéma de cérémonies qu'on m'a apprises, qui sont des cérémonies traditionnelles, qui peuvent venir de plusieurs endroits dans le monde. Je suis enseignée par une chamane amérindienne, donc j'ai des cérémonies amérindiennes, mais j'ai une cérémonie chamanique qui travaille avec le feu. Moi-même, je peux inventer des cérémonies. Donc, généralement, c'est des cérémonies qui sont préparées, qui sont proposées. Tel jour, telle heure, telle date, on se retrouve tous là et on fait une cérémonie. C'est souvent alors, il y a des cérémonies qui sont des cérémonies de guérison. Les cérémonies, elles ont pour vœu de guérir les gens. Mais c'est pas moi, c'est les esprits, c'est l'énergie, c'est l'intentionnalité des gens. Et il y a des cérémonies qui ont pour vocation de, par exemple, d'honorer l'eau, d'honorer les montagnes. Je vais faire un peu les deux. Souvent on pense qu'il faut guérir la terre, qu'il faut guérir l'eau, mais c'est pas vrai, ils se guérissent tout seuls en fait. C'est nous qui devons guérir pour arrêter de polluer tout en fait. Et je devais plutôt m'axer dans ce sens-là en fait.
Ah oui.
Donc, c'est une question de perception en fait. On œuvre pour l'eau, on œuvre pour la terre, on œuvre, mais en fait sans nous, tout le monde se porterait bien. Voilà, sans l'homme. Donc certes, on peut vraiment bénir, honorer. Je vais travailler dans ce sens-là. Mais je vais aussi plutôt travailler dans le sens de la guérison humaine. Si on est incarné sur Terre, c'est pour suivre un chemin qui est de se guérir, de faire évoluer notre âme. Et mon travail, il est là. De venir accompagner les gens sur ce chemin de transformation. Je vais travailler sur la transformation, sur la petite chose qui va pousser pour sortir de la zone de confort, ça va être moi.
D'accord.
Accompagner là-dedans à trouver ses limites et aller les repousser. Ça peut être aussi avec douceur. Parfois, sortir quelqu'un de sa zone de confort, c'est lui dire qu'il est merveilleux parce qu'il n'a pas l'habitude de l'entendre. Et quand on sort notre zone de confort, on remarque qu'on va toucher à un potentiel, à une puissance qu'on ne savait pas qu'on avait. Et là, on peut commencer à irradier notre magie dans le monde, en fait. C'est comme si on était des diamants bruts. Et mon travail, c'est le travail de transformation, de passer du charbon au diamant. Mais pour ça, il faut un petit peu quelqu'un à côté qui montre la voie, qui nous montre qu'on est tous des êtres merveilleux. Et nous aide à transformer tout ce qui nous empêche de sortir de cette zone de confort et ce qui nous empêche d'irradier pour vraiment se positionner dans le monde avec qui on est, vivre notre rêve. Et ça va être mon travail.
Wow.
Voilà.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. C'est mon travail aussi en yoga, quoi. C'est vous pouvez le faire et on va y aller ensemble.
Wow.
Voilà.
Oui, se donner un but, se donner les moyens d'y arriver.
C'est ça. Et puis surtout, sortir des croyances limitantes qu'on a de « je peux pas le faire, je vais pas y arriver, je suis trop jeune, trop vieux, trop raide, trop « j'entends pas, je sens pas ce qui se passe ». C'est pas grave, je suis là pour aider, montrer, apprendre, enseigner. Et ma médecine principalement, c'est vraiment ça, c'est d'une de ramener le sacré dans la matière pour montrer que le sacré, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours et qu'on peut rester profondément ancré et profondément vivant. Et la deuxième chose, c'est de pousser dans cet axe de transformation qui est vraiment transcendant. Et je vais passer par le corps beaucoup pour faire ça.
Waouh. Et lors de tes rendez-vous, lors de tes cérémonies, y a-t-il un habit spécial?
Alors, en cérémonie, oui. Moi, j'ai des vêtements qui sont des vêtements de cérémonie. On a comme ça en chamanisme des vêtements qui sont dédiés qu'à ça. Des bijoux aussi, souvent, une tenue qui est dédiée qu'à ça. La plupart des chamans traditionnels ou praticiens chamaniques traditionnels, ils ont les vêtements de leur pays. C'est vrai que maintenant, on a tendance à avoir des vêtements... Moi, par exemple, je suis française. En France, ce seraient les druides ou les sorcières, les gentilles sorcières, attention, les magiciennes, on va dire ça comme ça, qui auraient des vêtements traditionnels. Mais c'est des choses qui sont parfois, qui se sont perdues. Moi, je vais souvent être habillée... Bon, on va avoir une grande jupe. Les femmes ont des jupes qui descendent jusqu'à la terre pour protéger leur espace sacré. Et moi, je suis enveloppée dans des châles. J'ai un mala parce que je porte plus les médecines himalayennes, en fait. Et voilà, on va avoir... Je vais avoir souvent une ceinture de feu que j'ai ici aujourd'hui. Je l'ai mise pour me donner de l'ancrage et du courage parce qu'il faut quand même que je passe à la radio en direct. Il y a des attributs comme ça. Après, les gens qui viennent aux cérémonies, souvent les femmes, je leur propose d'avoir une jupe longue et je leur explique que c'est la protection de l'espace sacré de la femme jusqu'à la terre-mère. Mais après, chacun est libre. Quand on n'a pas de tenue spéciale, ça ne sert à rien de se mettre martel en tête. Le principe, c'est d'être présent dans la cérémonie. Et au fur et à mesure, quand on se met sur une voie chamanique, on peut avoir des outils spéciaux. Il y a des gens qui commencent à s'outiller, à avoir leur tambour, à avoir leur hochet, leur instrument, et avoir leur tenue qui sortent uniquement en cas de cérémonie. Pour nous, ça fait partie du principe que quand on est en tenue de rituel ou de cérémonie, les esprits savent qu'il va y avoir une cérémonie. Du coup, ils sont aux aguets, ils savent qu'on va les appeler. Alors quand je parle des esprits, je ne parle pas des revenants. Tout est possible, mais il y a les esprits des directions, les esprits du feu, les esprits de la terre. Pour nous, tout a un esprit. Le rocher, la plante. Et du coup, on va travailler avec les esprits de tout ce qui nous entoure. Et quand on est en tenue de cérémonie, les esprits savent qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'on va potentiellement les appeler, et ils se tiennent aux aguets, en fait.
Ah oui.
Voilà, tout est vivant et on va travailler avec ce tout-là.
C'est pas mal.
Ouais.
Et tout le monde peut participer à tes cérémonies?
Tout le monde peut participer. S'il y a des gens, les animaux passent, il y a un bébé qui est là, il y a des enfants qui veulent venir, des enfants qui viennent. C'est vraiment ouvert à tous. On m'a enseigné d'une manière très fluide, très ouverte. Et je pense que c'est super important. J'ai eu des cercles avec des femmes qui étaient en train d'allaiter. Il y a un chien qui passe au milieu, il y a un bébé qui pleure, C'est tout le vivant, en fait. Le principe, c'est de rester vivant et puis de faire avec ce qui est. Et moi, mon rôle, c'est de m'adapter à tout ça.
Wow.
Voilà, je donne les consignes de départ pour que tout se passe bien. Il y a des codes à respecter pour respecter le sacré. Et à l'intérieur de tout ça, faut faire avec ce qui est parce que la vie, elle est mouvante et... Voilà, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut
pas tout prévoir et tout contrôler.
Il faut lâcher le contrôle et faire avec ce qui est. Et moi, après, je me fais juste interprétatrice. Non, ça n'existe pas. Traductrice.
Interprète.
Interprète, mais je réfléchis en anglais des fois. Interprète des esprits, en fait. Et je fais le lien entre le monde ici et le monde des esprits.
Waouh.
Je suis une traductrice, tout simplement, en fait.
Et tu as été choisie pour ça. On ne s'improvise pas à chaman comme ça, quoi.
Il paraît que non. Traditionnellement, il n'y a que trois façons de devenir chaman. Il y a le fait d'être chaman de génération en génération dans une famille. Donc ça veut dire qu'avec tous les enseignements, ça prend 20 à 25 ans. Hein, quand même, c'est lourd d'ouvrir les perceptions.
Ah oui.
Il y a des gens qui peuvent décider de devenir chaman et avoir envie. Mais il faut qu'ils trouvent un chaman pour les enseigner. Et déjà, il faut que quelqu'un dise oui. Et ça reprend généralement 15-20 ans, voire plus. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une capacité à l'intérieur qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas. Mais il peut y avoir des très bons praticiens chamaniques néanmoins. Et il y a la troisième façon qui m'est manifestement arrivée, de ce qu'on m'a expliqué, c'est quand on a des gros accidents, quand on flirte avec la mort ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on... On a échappé à la mort que... mais voilà, il y a des choses qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas. Il y a une capacité. C'est une capacité qu'on dit être l'os creux, de canaliser le grand esprit, en fait. D'être en lien avec l'énergie de ce qu'on appelle, nous, le grand esprit, qui va nous guider, en fait.
Ouais.
Donc, dans certaines traditions, en fait, il y a des gens qui étaient... S'ils étaient foudroyés, et surtout s'ils survivaient... parce que c'était ça le problème, et ben ils étaient, ça veut dire que le grand esprit les avait choisis pour être chaman. Bon, il faut survivre, quoi.
Ah ouais. Ouais,
voilà, chaque tradition a toutes ses histoires, mais voilà, normalement, tout le monde ne devient pas chaman. On a notre propre chaman, notre propre guérisseur intérieur pour soi-même, pour être guérisseur pour les autres, On peut de toute façon se former en chamanisme et devenir guérisseur chamanique, mais pour être chaman, de tout ce qu'on m'a enseigné, traditionnellement parlant, ça ne se passe pas comme ça. Et pour être dans cette voie-là, je ne suis pas encore chamane, et peut-être que je ne le serai jamais, peut-être qu'on ne me déclarera jamais chamane. Je suis praticienne chamanique. C'est ça, c'est les anciens qui doivent vous dire « maintenant, t'es prête et t'es chamane ». Du coup, il n'y a pas d'ego qui rentre en ligne de compte, et ils attendent qu'on soit suffisamment humble et qu'on ait suffisamment appris. Et le processus chamanique, c'est un processus de mort et de renaissance dans sa vie. Il y a tout qui bouge, tout ce qui se transforme. On perd tout, on est obligé de tout reconstruire. C'est un sacré parcours, quoi. C'est vraiment une... Enfin, tel que je le vois, moi. J'ai pas la science, j'ai pas la vérité pour tout le monde. Mais j'ai fait un choix, à un moment donné, de dire « Ok, je suis ma mission de vie. » Et je savais, consciemment, que je risquais de tout perdre, ce qui a été le cas. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu des amoureux. C'est une vraie mission.
Qui n'était pas en accord avec ce que tu faisais.
Qui n'est pas en accord, et puis c'est pas facile tout le temps, quoi. Moi, si je suis appelée à faire quelque chose, j'y vais, quoi. Donc voilà, c'est... Et je suis très heureuse de ce que je fais, hein, ceci dit. Mais c'est une vraie mission de vie, et d'être là, d'aider les gens, d'être au service, en fait. Je gagne ma vie avec ça aussi, donc je suis très heureuse. Mais je suis au service du grand esprit. S'il me dit « tu pars là », voilà, je pars là.
Oui.
Donc, j'ai mon libre arbitre, j'ai mes choix, mais moi-même, j'ai pris la décision de dire oui à cet appel. Et j'ai la chance qu'il m'ait appelé dans les montagnes.
Eh oui.
Mais c'est une mission, et c'est et tout le parcours pour... en fait, pour être un bon guérisseur, il faut souvent beaucoup souffrir soi-même. Ben, plus on a traversé cette chose, plus on peut comprendre les gens en face. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans des étapes pas possibles, mais la vie le fait tout seul. Il faut traverser tout ça et en ressortir pour pouvoir montrer la voie aux gens.
Oui, c'est...
Voilà. Ben, c'est comme ça. Ça veut dire que mon âme l'a choisi et que je suis prête à le vivre. On ne vit que ce qu'on peut vivre.
Oui, c'est sûr. Ah oui, donc toi aussi, tu penses que c'est l'âme qui a choisi avant d'arriver dans le corps ce qu'elle va endurer.
Je pense, oui. Enfin, moi, ça fait partie de mes croyances.
J'ai eu une invitée aussi.
D'accord.
Le Reiki, ouais. Elle était maître Reiki Shambhala.
Ben, normalement, dans beaucoup de croyances, en fait, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas uniquement le bouddhisme ou quoi, c'est vraiment une question d'en fait, on part du principe que l'âme choisit, grosso modo, parce qu'heureusement on a notre libre arbitre, une incarnation, on choisit nos parents, on choisit pour nous faire vivre ce qu'on a à vivre et nous déclencher les blessures qu'on a déclenchées pour pouvoir travailler. Ouais, il y a des moments où on se dit, pouf, pourquoi j'ai choisi ça ? La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme on est responsable et qu'on a choisi, et ben en fait, on est victime de rien et on peut tout changer, on peut tout transcender, en fait. On est responsable.
Oui.
On est responsable dans le sens qu'on a le pouvoir d'agir sur les choses.
Wow.
Ouais. Ben, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si on avait toute une vie à vivre tributaire de quelque chose extérieur et qu'on n'avait pas le choix, ce serait dur, quoi.
Ouais. C'est sûr.
Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire.
Voilà.
On peut parler des heures de ça. En tout cas, moi, je pars du principe que mon âme a choisi ça et que du coup, ben, j'assume mes choix.
Et oui,
j'assume mes choix.
À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.